personne ne décide.
Père éternel, quel privilège qui avait toujours obéi, d'avoir été
non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Mettez en œuvre votre salut.
Je désire te
avec
venir chercher pour cela.
Et profond respect.
Père, tu cherches un peuple qui t'aime,
c'est
qui t'adore
Dieu qui produit
en
vous
vérité.
Le vouloir et le faire.
Construis-nous et montre-nous un projet bienveillant.
Voilà, c'est bon.
Faites tout sans murmure ni contestation.
Voilà, bonjour à tous. Alors, l'avez-vous remarqué? Alors, c'est notre Christine Aaron nationale, pour ceux qui ne la connaissent pas, grande athlète. Alors, l'avez-vous remarqué? Les records sportifs se font pratiquement toujours au moment des grands rassemblements, dans des stades archibondés, et non pas sur quelques obscurs terrains ou pistes d'athlétisme à l'abri des regards. C'est au moment des Jeux olympiques, des championnats du monde, que tombent les records en général. Alors pourquoi? Eh bien, en partie car dans ces grandes messes sportives, les athlètes sont puissamment encouragés par les foules. On voit parfois même des joueurs de football, des joueurs de tennis demander à la foule de les encourager. Et ces encouragements leur permettent donc de se dépasser, de se transcender. L'homme est ainsi fait. Il a besoin d'être encouragé pour avancer. Et cela, l'apôtre Paul, donc enfin connaisseur qu'il est de la nature humaine, l'a très bien compris. Et dans le passage que nous allons méditer ce matin, nous allons donc voir l'apôtre encourager les Philippiens, adresser donc à ses frères et sœurs de Philippe des encouragements. Alors nous avons vu dimanche dernier l'hymne à Christ, hein, c'était les versets 6 à 11 de ce même chapitre. Hymne à Christ donc par lequel l'apôtre a rappelé aux Philippiens et à nous-mêmes l'obéissance de Christ dans l'humilité. Christ qui est l'égal de Dieu le Père, Christ qui est Dieu, a accepté de s'humilier pour nous servir. Plus encore, il a accepté de connaître l'humiliation suprême en donnant sa vie pour nous. Et par là même, Christ a parfaitement obéi à son Père en tout point. Et c'est donc à la lumière de cet exemple parfait de Christ, cet exemple parfait d'obéissance, que Paul invite les Philippiens à obéir à leur tour, à demeurer fidèles. Alors, je vous propose de méditer ce texte en trois points. Nous verrons tout d'abord cet appel à la fidélité que l'apôtre adresse aux Philippiens. Ensuite, le but d'un tel appel à la fidélité, à savoir le souci d'offrir un témoignage fidèle, vivant, au monde qui nous entoure. Et puis, nous terminerons, ce sera notre conclusion, par la joie de l'apôtre alors qu'il pense à cette église de Philippe. Mais commençons donc par notre premier point, l'encouragement, l'appel à la fidélité que Paul adresse à l'église de Philippe. Et ce sont donc les versets 12 et 13 que je vous invite à relire. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Je vous propose de méditer ce premier point, l'appel, l'encouragement à la fidélité, en trois temps. Nous verrons en quoi cet appel à la fidélité est tout à la fois une assurance, cet appel est une assurance, une responsabilité et une assistance. Une assurance, cet appel que l'apôtre adresse à l'église de Philippe est une assurance pour eux. Le verset 12 parle de mettre en œuvre son salut, de faire fructifier son salut selon les traductions. Autrement dit, le salut nous est acquis. Nous l'avons déjà, de façon ici, dans ce passage un petit peu périphérique, l'appel, l'apôtre rappelle ici aux Philippiens que le salut est un don de Dieu et qu'il ne peut être la conséquence des œuvres qui s'y rattachent. Alors pour ceux qui étudient le jeudi soir la première épître aux Corinthiens, ils se souviendront que dans cette église, certains Corinthiens se croyaient plus spirituels que d'autres, car ils avaient reçu des dons assez spectaculaires, parmi lesquels notamment le fameux don du parler en langue. Et l'apôtre de leur répondre à ces Corinthiens que tous ceux qui confessent que Jésus est Seigneur sont des croyants spirituels, des croyants à part entière. C'est le chapitre 12 du verset et le verset 3 de l'épître aux Corinthiens. Car pour faire une telle confession, pour confesser que Jésus est Seigneur, il faut avoir été au bénéfice de l'œuvre de l'Esprit. Si nous pouvons confesser Jésus comme notre Seigneur, c'est car Dieu, par son Esprit, nous a permis de le faire. Il nous a donné le vouloir et le faire pour reconnaître Jésus comme le Seigneur. Cela ne vient pas de nous, c'est un don. Ainsi, la confession de Christ comme Seigneur, c'est-à-dire le salut, c'est-à-dire notre salut, est un don de Dieu. Comme cela est tout à la fois apaisant et encourageant de savoir que notre salut ne dépend pas de nos œuvres, mais de notre confession par la foi, que nous n'avons pas à y travailler pour le gagner. Nous le possédons déjà en Christ. Le salut est un cadeau, un don de Dieu, que nous pouvons saisir par la foi, qui est aussi un autre cadeau de Dieu. Tout vient de lui. Nous lui devons tout. Mais si le salut est un don de Dieu, cela ne nous exonère pas de toute responsabilité, et ce sera notre second temps. Une responsabilité. Mettez en action votre salut, verset 12. Et cela avec crainte et respect, ou crainte et tremblement selon les traductions. Et on comprend par ces derniers mots que l'apôtre veut attirer notre attention sur le sérieux de son exhortation. Il ne s'agit pas de se dire « Je suis sauvé, j'ai confessé Christ, le reste est accessoire. Je suis sauvé, la mise en œuvre de mon salut finalement n'est que facultative. » De telles idées montrent au contraire une mauvaise compréhension du don du salut. On voit ici que notre salut est quelque chose de dynamique, mettez en œuvre. Il peut y avoir des œuvres sans salut, mais il ne peut y avoir de salut sans œuvre. Encore une fois, Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous jouissions de façon très égoïste et passive de notre salut. Dieu nous a sauvés pour que nous fassions quelque chose de ce salut, quelque chose de cette vie nouvelle qu'il nous a donnée, à commencer par le servir, par servir son Église, par servir nos frères et nos sœurs. Les œuvres ne peuvent être de quelque façon que ce soit la cause de notre salut, mais elles doivent en être la conséquence. Alors je ne veux pas troubler ici l'un ou l'autre, mais je crois qu'il est bon parfois de s'arrêter pour se demander si nous mettons en œuvre notre salut. Peut-on voir objectivement dans ma vie que je suis sauvé ? Ou pas ? En quoi très pratiquement je mets mon salut en action ? Est-ce qu'à l'exemple de Christ, je sers, moi aussi ? Est-ce que je prie pour les autres ? Est-ce que je donne de mon temps, de mon énergie, de mes dons, de mon argent pour mes frères et sœurs, pour l'Église ? Est-ce que je le fais généreusement, avec joie ? Réjouissez-vous avec nous, avec joie. Ou suis-je tout le temps en train de compter, de rabioter, de dire, eh bien, c'est les autres qui feront ? Et dans ma vie très personnelle, dans ce que les autres ne connaissent pas, mais que je connais très bien. Dans mon caractère, dans mes travers, est-ce que ce qui doit changer change ou pas ? Le salut ne se gagne pas, mais tôt ou tard, il doit se voir, il doit se manifester. Et si tel n'est pas le cas, arrêtons-nous, examinons-nous. Pourquoi mon salut est aussi peu visible ? Pourquoi si peu de progrès ? Face à ces questions importantes qu'il est nécessaire de se poser parfois, la solution n'est pas dans l'activisme, ce qui montrerait que nous n'avons pas compris que le salut est un don. Bon, c'est vrai, jusqu'à présent, je reconnais que je n'ai pas vraiment mis mon salut en œuvre, mais je vais me rattraper. Non, dans ce cas-là, ce que le Seigneur veut nous voir faire, c'est de revenir à l'Évangile, de revenir à la croix. Avons-nous bien compris, vraiment bien compris, que le salut était un don ? A-t-on bien compris la croix, sa signification, ce qu'elle a représenté pour notre Seigneur, ce que cela lui a coûté ? Sommes-nous au clair sur qui nous étions vraiment avant de rencontrer Dieu ? Avions-nous vraiment pris conscience qu'il n'y avait rien de récupérable en nous ? Sommes-nous au clair sur qui est Dieu ? Mon ami, mon père, mon frère, bien évidemment, mais aussi le créateur du monde, le Dieu 3x5 qui ne peut tolérer le mal. Si nous avons des difficultés à mettre en œuvre notre salut, à le mettre en action, revenons d'abord et avant tout à l'Évangile, à son message, à sa signification. Alors on est peut-être un peu abattu. Mais l'apôtre, pour nous relever, nous rappelle une promesse tout à fait extraordinaire. Et ce sera notre troisième point. Verset 13. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Alors déjà dans son introduction à l'Épître aux Philippiens, au verset 6 et au chapitre 1, l'apôtre rappelait que celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son terme. Et l'apôtre ici d'enfoncer le clou. Non seulement le salut est un don, non seulement la foi qui permet de s'emparer de ce salut est un don, mais en plus, la mise en œuvre de ce salut est aussi un don de Dieu. Tout est don. Où est la part de l'homme ? Dieu suscite en nous la volonté de mettre en action notre salut, la volonté de lui obéir. Et il suscite dans le même temps, en nous, les ressources, le pouvoir de mettre en œuvre ce salut, de faire sa volonté. Tout est don de Dieu. Où est la part de l'homme ? Alors vous allez me dire, ou plutôt nous allons dire ensemble à l'apôtre, « Non mais cher apôtre, tu viens de dire à l'instant qu'il nous faut mettre en œuvre notre salut, que nous avons une part de responsabilité dans cette mise en œuvre. » Et nous aurions raison de le dire, de lui dire. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il existe une tension entre la grâce de Dieu qui intervient à toutes les étapes, on le voit, et notre responsabilité d'autre part. Et c'est vrai que cette tension, il faut bien le reconnaître, on ne peut la résoudre. Il y a deux vérités qui sont, dans les versets 12 et 13, proclamées. D'un côté, la grâce de Dieu dans notre vie, et de l'autre, notre responsabilité. Ces deux vérités sont, comme le dirait Trevor, il aime cette image, les deux faces d'une même pièce. Elles sont aussi vraies l'une que l'autre. Nous devons les accepter, même si nous ne pouvons les concilier intellectuellement. Il nous faut simplement les proclamer, les accepter et tenir compte des deux. Alors il nous reste à préciser comment Dieu s'y prend pour produire en nous le vouloir et le faire. Cela a déjà été très largement rappelé. Ce qui réjouit Paul, c'est que cette église de Philippe est partenaire avec lui dans l'annonce de l'évangile. Et c'est cet évangile, cette bonne nouvelle, cette parole de vie, verset 16, cette parole de vie que les Philippiens proclament, qui va les transformer pour leur permettre d'offrir à Dieu une vie d'obéissance, pour leur permettre de mettre leur salut en action. Comment Dieu suscite le vouloir et le faire ? Par sa parole, par l'œuvre de l'Esprit qui nous permet de comprendre sa parole. Remercions Dieu donc pour son action restauratrice en nous par sa parole et pour sa promesse de mener à bien ce qu'il a commencé. Donc voilà pour ce qui est de l'appel à la fidélité, à l'obéissance que l'apôtre adresse aux Philippiens. Alors maintenant, il nous faut voir le pourquoi d'un tel appel. Alors dans ce passage, la raison d'un tel appel est clairement d'offrir au monde un témoignage fidèle et vivant. Ce sera donc notre seconde partie. Et nous méditerons cette partie en deux temps. Nous verrons tout d'abord le comportement attendu de la part des Philippiens, de la part des croyants, puis nous verrons leur message. Le comportement tout d'abord, ce sont donc les versets 14 et 15. Les Philippiens doivent être irréprochables, purs et sans défaut, ou sans tache, selon les traductions. Et pour être irréprochables, purs et sans tâche, ils doivent déjà commencer par ne pas murmurer ni contester. Alors d'après les commentateurs, l'apôtre fait ici très clairement allusion à l'attitude du peuple d'Israël après sa sortie d'Égypte, alors qu'il erre dans le désert. Alors Moïse, dans son cantique à la fin du livre du Deutéronome, parle du peuple d'Israël comme d'une race perverse et corrompue. Ce sont les adjectifs que l'apôtre attribue ici au monde. Moïse, à la fin du Deutéronome, parle donc du peuple d'Israël comme d'une race perverse et corrompue à cause de ses murmures incessants. L'apôtre exhorte les Philippiens à bien retenir les leçons du passé pour ne pas commettre les mêmes erreurs désastreuses que celles du peuple au désert. Cessons donc de murmurer, de nous plaindre, de contester. Alors Paul ne nous interdit pas ici, ce n'est pas son propos, de formuler dans l'amour et pour servir nos frères et sœurs, pour servir l'Église. Il ne nous interdit pas de formuler des critiques constructives pour faire avancer l'Église. Tout n'est pas parfait, même à la graine colombe. Non, il vise ici les plaintes stériles et récurrentes que nous connaissons malheureusement dans toutes les églises. Il faut le reconnaître. Il y a des professionnels de la plainte. Des gens pour qui rien ne va jamais. Qui sont critiques surtout, pour lesquels, finalement, la vie n'a plus de saveur s'ils ne vivent un problème, un drame. Tout va toujours mal. Il y a des problèmes partout. Cela, à nous tous, plus ou moins, Paul nous demande de cesser de nous plaindre et d'aspirer plutôt à être irréprochable, pur et sans défaut. Mais que faut-il entendre exactement par là ? Irréprochable, pur et sans défaut, nous le serons au sens fort, au sens plein du terme seulement, au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. En attendant, l'apôtre invite les Philippiens, et nous aussi par la même occasion, à ne pas avoir une vie qui se prêterait facilement à la critique venant des non-croyants. Et bien malheureusement, nous devons avec tristesse reconnaître que la vie de certains croyants est parfois un scandale pour les non-croyants. Quelle image certains d'entre nous donnent au monde avec derrière une perte de crédibilité de l'Évangile et une atteinte portée à l'honneur de notre Dieu. Alors, il y a bien sûr les plus connus, on pourrait en citer beaucoup. Martin Luther King, par exemple, croyant authentique, mais qui collectionnait les maîtresses. C'était l'évangéliste, souvent, il faut bien le reconnaître, intéressé financièrement. Mais il y a aussi les inconnus, il y a aussi vous, il y a aussi moi. Ah oui, je le connais, lui, il va à l'église. Mais qu'est-ce qu'il est infernal avec sa femme, un vrai tyran. Ah oui, lui, il est protestant, il est assez impliqué, oui, même très impliqué dans son église. Bon, il faut dire qu'il a le temps parce qu'au travail, il ne fiche rien. Lui, il est responsable dans une église. Et il paraît qu'il n'arrête pas de faire d'appel à la générosité des paroissiens. Pas étonnant, il est affreusement radin. Et tout ceci dit avec des rires. Et la liste pourrait s'allonger. Veillons à ne pas recevoir des critiques légitimes de la part des non-croyants. Mais l'apôtre va plus loin quand il nous demande d'être irréprochable, pur et sans défaut. Non seulement, bien sûr, veillez à ce que le monde n'ait rien à vous reprocher, mais en plus, offrez-lui, par vos vies, quelque chose qui reflète votre Père qui est dans les cieux. Vous devez manifester, au moins en partie, le caractère de votre Dieu. Et par là même, vous devez proclamer votre véritable identité. Vous êtes des enfants de Dieu. Montrez-le. Faites preuve de patience, de compassion, d'amour. Finalement, l'apôtre demande ici aux Philippiens ce qu'il leur a déjà demandé dans la première partie. Mettez en œuvre votre salut. Alors pourquoi être irréprochable, pur et sans défaut ? Il en va de la crédibilité de l'Évangile. Une parole, un message. Versets 15 et 16. Les croyants doivent briller, doivent éclairer le monde. Nous devons éclairer le monde. Le Christ lui-même nous a dit que nous étions la lumière du monde. Alors comment ? Eh bien en portant, en présentant au monde la parole de vie. Verset 16. Et l'on constate ici le partenariat des Philippiens avec Paul, ce partenariat qui le réjouit tant, ce souci qu'ils avaient en commun de proclamer l'Évangile. Et l'on comprend également la nécessité d'avoir une vie irréprochable pour rendre cet Évangile crédible, audible. Peut-on en effet raisonnablement penser qu'une personne qui se conduit mal aux yeux et aux su de tous, aux vues et aux su de tous, qui se conduit dans le péché a peu de chances d'être entendue quand elle appellera les non-croyants à se repentir. Si quelqu'un est connu pour être rancunier, sa proclamation de la grâce aura du mal à passer. Si nous ne sommes pas irréprochables, notre proclamation de la parole aura des effets limités, pour ne pas dire nuls. Et nous avons là toute l'importance de l'exemplarité. Alors l'exemple, c'est important, c'est même nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi présenter la parole de vie, dire, proclamer la parole de vie. Alors il est intéressant dans ce passage d'observer que c'est en proclamant la parole de vie que les croyants brillent dans le monde. Vous brillez parmi eux, en portant la parole de vie. Alors, quelle est cette parole ? Bien, il s'agit de l'Évangile. C'est-à-dire qu'il s'agit de présenter une personne, de présenter Jésus-Christ. Et Jésus comme Sauveur et Seigneur. C'est lui, Jésus-Christ, qui, par sa mort et sa résurrection, peut nous ramener à la vie. Et c'est en cela qu'il s'agit d'une parole de vie. Alors c'est justement ce que nous allons faire mercredi prochain avec les réunions Rison Dieu. Et c'est l'occasion pour moi donc de vous encourager à nouveau à inviter, à accompagner des personnes de votre entourage qui ne connaissent pas encore cette parole de vie pour qu'ils la découvrent et reconnaissent à leur tour Jésus comme le Seigneur et le Sauveur. Alors si les Philippiens mettent leur salut en œuvre, mènent une vie irréprochable, brillent en proclamant la parole de vie, alors ils seront pour l'apôtre un sujet de joie. Et c'est avec ce dernier point que j'aimerais finir. Paul, au moment où il écrit cette épître, on l'a dit déjà, est en résidence surveillée. Il est vraisemblablement à Rome et dans l'attente de son procès. Et l'issue de son procès, eh bien peut-être la condamnation à mort, suivie de son exécution par décapitation. Le risque est réel. Pas l'affaire de 2-3 mois de prison. Le risque est réel et l'apôtre en a pleinement conscience. Pourtant, il finit avec ces mots extraordinaires. « Je me réjouis. Réjouissez-vous avec moi. » Qu'est-ce qui peut bien provoquer la joie de l'apôtre alors qu'il se trouve objectivement dans une situation si difficile? Je propose de traiter donc cette question en deux temps. Nous verrons que c'est l'Église de Philippe qui fait la joie de son fondateur. Mais nous verrons aussi que c'est la possibilité pour l'apôtre d'offrir sa vie en sacrifice qui le remplit également de joie. Alors, l'Église de Philippe, tout d'abord, le sacrifice des Philippiens, verset 16. Alors, il est intéressant, en préambule, de voir que l'apôtre garde toujours en perspective le retour de Jésus-Christ. En portant la parole de vie, je pourrais alors être fier le jour de Christ. L'apôtre ne perd jamais de vue ce moment qui détermine dans le présent son comportement. L'apôtre sait que l'histoire a un sens, que ce monde est en train de passer et qu'il cessera lors du retour en gloire de son roi. Et cette connaissance de l'apôtre a des conséquences sur sa vie présente. Alors, est-ce le cas pour nous? Vivons-nous à la lumière du retour de notre roi? Ou avons-nous définitivement remisé ce retour de Jésus à la nuit des temps, quand nous ne l'ignorons pas totalement? L'apôtre nous invite ici encore à nous attendre au retour de Jésus dans la confiance et l'action. Mettez en œuvre votre salut. Alors l'église de Philippe est pour Paul, donc son fondateur, par la grâce de Dieu, un sujet de fierté, un sujet de gloire. Alors certains se glorifient de leur statut, de leur maison, de leur richesse, de leur travail, de leur famille. Et nous, de quoi sommes-nous fiers? Sommes-nous fiers d'offrir à Dieu une église qui l'honore? Est-ce là notre sujet de joie, notre sujet de fierté? Ou bien trouvons-nous notre satisfaction, notre gloire dans autre chose? En un mot, avons-nous l'Église à cœur? Avons-nous notre Église à cœur? L'apôtre, lui, est fier de ses frères et sœurs de Philippe. Il est fier de cette Église. Avec tendresse, il dirait qu'il est fier de son Église, de cette Église qu'il a pu fonder. Et il est fier d'eux, car c'est une Église qui sert. Il est fier d'eux, car c'est une Église qui a une foi suffisamment mûre pour servir. Notamment se mettre au service de la parole de vie. Alors cette église ici de la Garenne-Colombe n'a pas été fondée par un apôtre, mais nous le croyons, elle a été fondée par et sur Christ. Alors je me demande parfois quels peuvent être les sentiments qui animent le Christ lorsqu'il regarde notre église. Est-il animé des mêmes sentiments que l'apôtre pour l'église de Philippe? Est-il fier de son église à la Garenne? Cette église lui donne-t-elle toute la gloire qu'il attend? Ou pas? L'apôtre, lui, en tout cas, est fier des Philippiens. Il n'y a pas d'orgueil dans cette fierté. C'est, pour faire une comparaison, la fierté saine de l'artisan devant le travail bien fait. Et qui sait que s'il a pu le réaliser, ce travail, c'est parce que Dieu lui a donné des mains habiles. L'apôtre, donc, dans la joie à cause de l'église de Philippe. Mais si l'apôtre est dans la joie, c'est aussi car il peut offrir sa vie en sacrifice à Dieu. C'est le verset 17 que nous pouvons relire. « Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. » Alors, que veut exactement dire l'apôtre par ces quelques mots ? Paul compare la vie des croyants de Philippe, leur service. Il le compare à un sacrifice offert à Dieu. Par leur service de l'Évangile, les Philippiens offrent à Dieu un sacrifice qui l'agrée, qui lui fait plaisir. Et Paul suggère que sa mort éventuelle à venir, à cause de sa fidélité à Christ, pourra accompagner le sacrifice de l'Église de Philippe, pourra le compléter de la même façon que dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, certains sacrifices étaient accompagnés d'huile ou de vin que l'on répandait à côté ou sur le sacrifice. La personne arrivait avec son sacrifice et puis on y ajoutait, en versant dessus ou à côté, un peu d'huile, un peu de vin. Le passage que nous méditons ce matin est encadré par deux sacrifices. Celui de Jésus-Christ lui-même, au verset 8, l'hymne à Christ que nous avons médité dimanche dernier. Donc celui de Jésus et celui de l'apôtre, à la fin donc de ce passage au verset 17. Alors les deux sacrifices n'ont bien évidemment pas la même valeur, la même portée. Le sacrifice de Jésus, nous le savons, nous sauve. Son sacrifice a une puissance salvatrice que celui de l'apôtre n'a pas. L'apôtre n'est qu'un homme et un homme pécheur. Mais le sacrifice de l'apôtre a ce point commun avec celui de Christ, c'est qu'il est consenti pour servir, pour se mettre au service d'eux. Un verset bien connu que nous répétons assez régulièrement ici, Marc, évangile de Marc, chapitre 10, verset 45, nous rappelle que Christ n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et comment ? En donnant sa vie en rançon pour beaucoup. Christ nous a servi. Et il l'a fait ultimement en donnant, au sens propre du terme, sa vie. De même, Paul, à l'exemple du Christ, a servi les Philippiens, a servi l'Évangile, et en cela a servi également son Dieu, ce qui risque de lui coûter très cher. Paul a servi tout comme Christ. Paul a imité son divin maître. Et il est possible que ce soit cela aussi, son service, son imitation de Jésus dans le service, qui le remplisse de joie. Par la grâce de Dieu, j'ai pu suivre les traces de mon Sauveur. En servant, je suis heureux. Et pour cela, je vous demande de vous réjouir avec moi. Car là, le service, là est l'essentiel, même si je vais mourir. Alors, là aussi, je nous pose la question, est-ce que le service de nos frères et sœurs, qui est une forme de sacrifice, qui coûte, est-ce que le sacrifice, donc pour eux, à l'exemple de Christ, est-ce cela qui nous réjouit ? La société est là pour nous apporter un message radicalement opposé. C'est dans ma jouissance, c'est-à-dire dans le refus du sacrifice, dans le refus du service. C'est dans ma jouissance, dans mon épanouissement personnel, que se trouve mon bonheur. Voilà ce que nous répète à l'envi la société. L'apôtre, lui, nous rappelle ici que c'est en servant, dans les traces de Jésus, que se trouve la joie véritable. Même si ce service coûte. L'apôtre encourage les Philippiens à être reconnaissant pour le don du salut et à mettre ce salut en œuvre. Comment ? En étant irréprochable, pur et sans défaut. Pourquoi ? Pour pouvoir briller en portant la parole de vie. Le Seigneur, ce matin, nous encourage à le bénir pour le salut acquis par le sacrifice de Christ. Il nous encourage à le mettre en action, à montrer autour de nous que nous sommes bel et bien sauvés, à être irréprochables, purs et sans défaut pour briller en portant la parole de vie autour de nous. Il nous invite à suivre l'exemple de Christ, à servir nos frères et sœurs, à sacrifier nos vies pour eux. Que le Seigneur, en effet, produise en nous le vouloir et le faire pour que nous le servions toujours mieux, pour que nous servions son Église, c'est-à-dire nos frères, nos sœurs, pour que nous acceptions avec générosité de lui sacrifier nos vies. C'est dans ce sacrifice que se trouve la joie véritable, car nous nous savons alors approuvés de Dieu. Je vais finir par la prière. Seigneur, merci encore pour tous tes bienfaits et pour toutes tes grâces. Merci pour ton salut, pour ce don. Et en effet, Seigneur, aide-nous vraiment à le mettre en œuvre, en action. Et ceci pour ta gloire. Amen.